Chapitre 5. Lydgate, heureusement, avait fini par perdre au billard, et il n'en emportait pas d'encouragement à poursuivre plus longtemps la fortune. Il ressentit, au contraire, un véritable dégoût de lui-même lorsqu'il eut à payer le lendemain une perte de 4 à 5 livres, et partout où il allait, une vision des plus pénibles l'accompagnait, celle du personnage qu'il avait joué, digne émule des habitués du Dragon Vert qu'il avait coudoyé. Entre un philosophe qui a succombé à la tentation de parier et un philistin qui a fait de même dans les mêmes circonstances, il n'y a guère de différence que dans les réflexions qui viennent après coup. Et Lydgate eut à ruminer de cette façon une fort désagréable pâture. Son imagination lui montrait comment, par le seul fait d'un simple changement de scène, son aventure eût pu grandir jusqu'à faire de lui un homme ruiné. Il lui suffit, au lieu d'aller au Dragon Vert, d'entrer dans une maison de jeu, là où l'on pouvait saisir la chance à deux mains au lieu de l'attraper seulement avec le pouce et l'index. Et cependant, alors que la raison étouffait en lui toute envie de jouer, il conservait le sentiment qu'avec la certitude d'une certaine dose de chance, il aurait encore mieux aimé jouer que de prendre le parti qui commençait à s'imposer à lui comme inévitable. Ce parti était de s'adresser à M. Bulstrode. Lydgate s'était vanté souvent aux autres et à lui-même d'être absolument indépendant de Bulstrode, de ne s'être prêté à ses plans que lorsqu'il lui permettait de mettre ses propres idées à exécution. Son orgueil s'était trouvé constamment soutenu, dans leur rapport personnel, par la pensée qu'il faisait socialement un bon emploi de ce banquier puissant, des opinions duquel il ne faisait aucun cas, et dont les motifs lui paraissaient souvent un mélange absurde d'impressions contradictoires. Aussi, l'idée d'adresser jamais pour son compte une demande importante à Bulstrode eût-elle rencontré au-dedans de lui des obstacles presque insurmontables. Cependant, au commencement de mars, ses affaires en étaient venues à cette extrémité où l'on commence à reconnaître qu'on a prononcé ses serments dans l'ignorance et à s'apercevoir qu'on peut commettre tel acte jugé jusque-là impossible à accomplir. Sous le coup de la terrible caution de Dauvin, qui ne tarderait pas à produire ses effets, voyant l'argent que lui rapportait sa clientèle immédiatement absorbé par le paiement des dettes antérieures, courant le risque, si l'on savait le fond des choses, de se voir refuser à crédit ses achats journaliers, et par-dessus tout, avec le spectacle désespérant du mécontentement de Rosemonde qui le hantait à toute heure, Lydgate avait fini par se rendre compte qu'il se résignerait inévitablement à demander secours à l'un ou à l'autre. Il avait pensé d'abord à écrire à M. Vincey, mais en interrogeant Rosemonde, il se trouva, comme il l'avait soupçonné, qu'elle s'était déjà adressée 2 fois à son père, en dernier lieu, après la déception qu'elle avait éprouvée du refus de Sir Godwin. Et papa avait dit que Lydgate devait se tirer d'affaire tout seul. Papa a dit qu'il en était venu, après une succession de mauvaises années, à recourir de plus en plus au crédit pour son commerce, et qu'il avait dû renoncer pour son propre compte à bien des douceurs. Il avait trop de charges pour pouvoir disposer seulement d'une 100aine de livres. Que Lydgate, a-t-il dit, s'adresse donc à Bulstrode. Ils ont toujours été comme le gant et la main. En réalité, Lydgate lui-même en était arrivé à la conclusion que s'il devait emprunter à quelqu'un, ses relations avec Bulstrode étaient de nature à donner à sa demande une apparence légitime, différente d'un service purement personnel, comme c'eût été le cas vis-à-vis de tout autre. Bulstrode avait contribué indirectement à lui faire perdre sa clientèle et n'avait pas été médiocrement satisfait d'avoir un médecin à associer à ses plans. Et qui parmi nous s'est jamais vu réduit à l'espèce de dépendance où se trouvait Lydgate, sans essayer de croire à certains droits faits pour rendre moins dure l'humiliation de demander? Dans ces derniers temps, il est vrai, un ralentissement inusité d'intérêt pour l'hôpital s'était comme fait sentir chez Bulstrode. Mais aussi sa santé était devenue plus mauvaise et présentait tous les signes d'une affection nerveuse profondément enracinée. À d'autres égards, il ne semblait pas avoir changé. Il avait toujours été fort poli, mais Lydgate avait, du premier jour, observé en lui une froideur très marquée à propos de son mariage et d'autres circonstances particulières. Froideur qu'il avait jusque-là préférée à un excès de familiarité. Il n'en différait pas moins de jour en jour. Il voyait souvent Bulstrode, mais sans chercher à profiter d'une occasion en faveur du projet qu'il nourrissait. Tantôt il se disait « J'écrirai, j'aime mieux cela que des insinuations ». D'autres fois il songeait « Non, j'ai toujours la ressource, en lui parlant, de me retirer au premier signe de refus », et il n'allait au-devant d'aucun entretien particulier. Dans l'horreur qui le faisait reculer devant l'humiliation de se trouver vis-à-vis de Bulstrode dans une attitude de suggestion, il commença à se familiariser avec un autre dessin encore plus éloigné de sa personnalité d'autrefois. Il se mit à réfléchir à ce désir puéril de Rosemonde qui avait souvent excité sa colère, ce désir de quitter Middlemarch sans se préoccuper de ce qu'il ferait après. Se trouverait-il quelqu'un pour lui acheter sa clientèle, pour le peu qu'elle valait aujourd'hui? En ce cas, une vente générale pourrait ne paraître que le préliminaire naturel du départ. Mais à cette démarche, dans laquelle il sentait encore un abandon misérable de son travail présent et un éloignement coupable de ce qui était une voie régulière, susceptible de devenir une voie plus vaste pour une honorable activité, à son départ sans destination justifiée, il y avait encore cet obstacle que l'acheteur, en admettant qu'il s'en trouvât, ne se présenterait pas assez vite. Et ensuite, qu'ils allassent dans une grande ville, dans une ville éloignée, Rosemonde ne trouverait pas dans le pauvre logement qu'elle habiterait une vie capable de la sauver du découragement, et de le sauver lui-même du reproche de l'y avoir plongé. Lorsqu'un homme est au pied de la montagne qu'il faut gravir pour atteindre la fortune, il peut y rester longtemps en dépit de ses mérites professionnels. Sous le climat britannique, il n'y a pas incompatibilité entre la science et le logement garni. Où l'incompatibilité existe, c'est entre l'ambition scientifique et une femme qui s'accommode mal de ce genre de résidence. Mais tandis qu'il hésitait ainsi, l'occasion elle-même vint le décider. Un billet de M. Bulstrode pria Lydgate de venir le trouver à la banque. Une certaine tendance à l'hypocondrie s'était manifestée tout dernièrement dans l'état du banquier. Il avait pris pour une menace de folie une privation de sommeil qui n'était en réalité qu'une légère aggravation de certains indices de dyspepsie habituels chez lui. Il désirait sans tarder consulter Lydgate, bien qu'il n'eût rien de plus à lui dire ce jour-là que ce qu'il lui avait déjà dit maintes fois. Il écouta avidement les paroles rassurantes de Lydgate, qui n'était elle-même aussi qu'une répétition. Et ce moment où Bulstrode se sentit rassuré et soulagé en écoutant son médecin sembla faciliter à celui-ci, plus qu'il ne se l'était figuré à l'avance, la communication relative à ses besoins personnels. Il avait insisté sur ce qu'il vaudrait mieux pour M. Bulstrode, s'occuper désormais un peu moins d'affaires. On voit combien toute tension d'esprit, si faible qu'elle soit, peut affecter une constitution délicate, dit Lydgate, à ce moment de la consultation où les remarques tendent à passer du personnel au général. Par l'empreinte profonde que des tourments rongeurs peuvent laisser pour un temps, même sur des êtres jeunes et vigoureux. Je suis très fort de ma nature. Néanmoins, j'ai été tout à fait secoué dans ces derniers temps par une accumulation de soucis. J'imagine qu'une constitution aussi susceptible qu'est la mienne à présent serait surtout exposée à tomber victime du choléra s'il visitait notre district. Et depuis son apparition aux environs de Londres, c'est bien le cas d'implorer la protection de l'hôtel propitiatoire, dit M. Bulstrode, sans nulle intention d'éviter l'allusion de Lydgate, mais simplement préoccupé de ses inquiétudes pour lui-même. Vous avez dans tous les cas contribué à l'application de bonnes mesures pratiques pour la ville. Et c'est là le meilleur moyen de demander protection, dit Lydgate avec un profond dégoût pour la métaphore boiteuse et la triste logique de cette religion, dégoût quelque peu augmenté par la surdité apparente de la sympathie de Bulstrode. Mais il était entré dans le mouvement auquel il s'était dès longtemps préparé, et il ne se laissa pas rebuter. Il ajouta « La ville a beaucoup gagné sous le rapport de la salubrité et de l'organisation des secours. Et je crois que si nous avions le choléra à Middlemarch, nos adversaires eux-mêmes seraient forcés de reconnaître que nos dispositions à l'hôpital sont un bienfait public. » « Sans doute, répondit assez froidement M. Bulstrode. Quant à ce que vous me conseillez, M. Lydgate, de réduire mon travail intellectuel, je nourris depuis quelque temps un projet très arrêté dans mon esprit. Je pense à abandonner, au moins temporairement, la direction de beaucoup d'affaires, soit de bienfaisance, soit commerciale. Je songe aussi à changer de résidence pour un temps. Il est probable que je fermerai ou louerai ma propriété des Bosquets, et je choisirai quelque endroit près de la côte, en prenant conseil, bien entendu, quant à la salubrité du lieu. Cette mesure aurait, je pense, votre approbation. Oh oui, dit Lydgate, se rejetant au fond de son siège, avec une impatience mal réprimée, en face des yeux pâles et graves du banquier, et irrité de sa préoccupation si grande de lui-même. C'est un sujet, continua le banquier, que je songe depuis quelque temps déjà à aborder avec vous, à propos de notre hôpital. Dans les circonstances que je viens de vous indiquer, je devrais cesser naturellement d'avoir aucune part personnelle dans la direction, et il est contraire à mes idées de responsabilité de continuer à appliquer de grosses sommes à une institution que je ne puis surveiller et jusqu'à un certain point diriger. J'ai donc résolu, tout bien considéré, au cas où je donnerais suite à mon intention de quitter Middlemarch, de retirer au nouvel hôpital tout autre secours que celui qui subsistera par le fait que j'ai couvert en partie les frais de construction, et que j'ai contribué ensuite par de grosses sommes au meilleur succès de son fonctionnement. Quand Bulstrode s'arrêta, selon sa coutume, la première pensée de Lydgate fut de se demander si peut-être il avait perdu de l'argent. C'était l'explication la plus plausible d'un discours qui venait de porter un coup sensible à ses espérances. Il répliqua « Ce déficit, je le crains, ne pourra guère être compensé pour l'hôpital. » « Guère, repartit M. Bulstrode du même ton net et délibéré, si ce n'est par quelque changement de système. Mrs. Casaubon est la seule personne sur laquelle on puisse compter avec certitude, comme disposée à augmenter sa subvention. J'ai eu une entrevue avec elle à ce sujet, et je lui ai indiqué, comme je vais vous l'indiquer à vous-même, qu'il serait désirable d'acquérir pour le nouvel hôpital un appui plus général au moyen d'un changement de système. » Un nouveau silence suivit, mais Lydgate ne parla pas. Le changement dont je parle est une fusion avec l'hospice, de façon que le nouvel hôpital soit regardé comme une annexe spéciale de l'ancienne institution et dirigé par le même conseil. Il sera nécessaire, d'une manière générale, de combiner la direction médicale des deux établissements. De cette façon, toute difficulté quant aux meilleurs moyens d'existence de notre établissement sera levée, et les intérêts de la ville dans les questions de bienfaisance cesseront d'être divisés. M. Bulstrode s'arrêta de nouveau, cessant de regarder Lydgate, et abaissant les yeux sur les boutons de son habit. Il n'est pas douteux que ce soit là un bon projet quant aux voies et aux moyens, dit Lydgate avec une pointe d'ironie dans l'accent. Mais vous ne pouvez vous attendre à ce que je m'en réjouisse dès l'abord. Le premier résultat que j'en vois, c'est que mes confrères vont se mettre en travers de mes méthodes, par la seule raison que ce sont les miennes. J'ai moi-même, vous le savez, monsieur Lydgate, hautement apprécié l'application que vous avez faite avec tant de zèle d'un système nouveau et indépendant. J'avais fort à cœur, je le confesse, notre plan primitif, tout en demeurant soumis à la volonté divine. Mais puisque les indications providentielles exigent de moi une renonciation, je renonce. Bulstrode, dans cette conversation, faisait montre de facultés passablement exaspérantes. La métaphore bancale et la singulière logique des raisons qui avaient excité le mépris de son auditeur étaient tout à fait compatibles avec une manière d'établir les faits qui rendait difficile à Lydgate d'exhaler son indignation et son désappointement. Après un court moment de réflexion, il demanda simplement « Qu'a dit Mrs. Casaubon ?»« C'était là le nouveau point que je voulais vous exposer, » répondit Bulstrode, qui avait préparé dans toutes ses parties son explication ministérielle. Elle est, vous le savez, dans les dispositions les plus libérales et en possession, heureusement, non pas, je le crains, d'une grande fortune, mais de fonds dont elle peut aisément disposer. Elle m'a informé que, bien qu'elle eût destiné une grande partie de ses fonds à un autre emploi, elle était disposée à examiner si elle ne pourrait pas me remplacer entièrement en ce qui concerne l'hôpital. Mais elle désire qu'on lui laisse le temps de mûrir ses idées à ce sujet, et je lui ai dit qu'il n'y avait pas lieu de se hâter, que par le fait, mes propres résolutions n'étaient pas encore arrêtées. Lydgate était prêt à lui dire « Si Mrs. Casaubon prenait votre place, nous y gagnerions au lieu d'y perdre. » Mais il avait encore un poids sur le cœur qui arrêta cet élan de franchise. Il répliqua « Je suppose alors que je pourrais en causer avec Mrs. Casaubon. Sans doute, c'est précisément ce qu'elle désire. Sa décision, dit-elle, dépendra beaucoup de votre avis. Mais pour le moment, elle se dispose, je crois, à partir en voyage. J'ai ici sa lettre, dit M. Bulstrode, la sortant de sa poche et se mettant à lire. Je suis présentement lié d'un autre côté, dit-elle. Je vais dans le Yorkshire avec Sir James et Lady Chatham, et les résolutions auxquelles je m'arrêterai, à propos de terrains que je dois voir là-bas, décideront sans doute de ce que je pourrai faire pour subventionner l'hôpital. Ainsi, Lydgate, il n'y a pas besoin de se presser, mais je désirais vous informer à l'avance de ce qui peut éventuellement arriver. M. Bulstrode remit la lettre dans sa poche et changea d'attitude comme s'il avait terminé son affaire. Lydgate sentit l'espoir lui revenir au sujet de l'hôpital, mais il n'en eut que plus fortement encore conscience des circonstances qui empoisonnaient cet espoir, et il sentit que le moment était venu de faire son effort et vigoureusement pour obtenir de l'aide. « Je vous suis très obligé de me donner pleine connaissance de tout cela, » dit-il avec une intention ferme dans la voix, mais avec quelque chose de saccadé dans le débit qui montrait qu'il parlait à contre-cœur. « Je n'ai pas dans ma vie de but plus élevé que ma profession même, et j'avais identifié l'hôpital avec le meilleur usage que je puisse faire quant à présent de ma profession. Malheureusement, le meilleur usage ne s'accorde pas toujours avec les meilleurs profits. Tout ce qui a rendu l'hôpital impopulaire a contribué, avec d'autres causes, je crois qu'elles se rapportent toutes à mon zèle professionnel, à me rendre impopulaire en tant que praticien. Les malades que j'acquiers sont en grande partie des gens qui ne peuvent pas me payer. Je les préférerais aux autres si je n'avais personne à payer pour mon compte. » Lydgate attendit un instant, mais Bulstrode s'inclina seulement, le regardant d'un œil fixe, et il continua du même ton rapide et saccadé. « Je suis tombé dans des embarras d'argent dont je ne puis voir le moyen de sortir, à moins que quelqu'un, ayant confiance en moi et en mon avenir, ne me fasse l'avance d'une certaine somme sans autre garantie. Il ne me restait que très peu de choses quand je suis venu ici. Je n'ai pas d'espérance de fortune du côté de ma famille. Les dépenses que j'ai faites, par suite de mon mariage, ont de beaucoup dépassé mes prévisions. Le résultat, c'est qu'à présent, il faudrait 1 000 000 de livres pour me sortir de là. Je veux dire pour me délivrer du risque de voir tout ce que je possède vendu, en garantie de la plus forte de mes dettes, aussi bien que pour payer les autres et nous laisser une petite avance qui nous permette de vivre sur notre modeste revenu. Il m'est impossible de m'adresser à mon beau-père pour une telle avance. C'est pourquoi j'expose ouvertement ma situation au seul homme, à son défaut, que je puisse regarder comme ayant quelque rapport personnel avec ma prospérité ou ma ruine. » Lydgate avait horreur de s'entendre parler ainsi. Mais enfin, il avait parlé, et avec une netteté à laquelle on ne pouvait se méprendre. M. Bulstrode répliqua sans hâte, mais aussi sans hésitation, « Je suis peiné, quoique point surpris, je l'avoue, de cette communication, M. Lydgate. Pour ma part, j'ai regretté votre alliance avec la famille de mon beau-frère, qui a toujours eu de fâcheuses habitudes de prodigalité, et qui s'est déjà fortement endetté envers moi pour des sommes prêtées dernièrement à un moment critique. Je vous donnerai le conseil, Monsieur Lydgate, au lieu de vous enfoncer dans de nouvelles obligations et de continuer une lutte incertaine, de faire simplement banqueroute. » Cela n'améliorerait pas mes perspectives d'avenir, dit Lydgate avec amertume en se levant. Quand même, ce serait une chose plus agréable en elle-même. C'est toujours une épreuve, dit M. Bulstrode, mais l'épreuve est notre partage ici-bas, et c'est un correctif nécessaire. Je vous recommande de bien peser le conseil que je vous donne. Merci, dit Lydgate, sans savoir au juste ce qu'il disait. Je ne vous ai que trop longtemps retenu. Adieu, monsieur. Chapitre 6. Si les desseins de Bulstrode s'étaient modifiés, s'il s'était produit un revirement dans son intérêt pour certaines œuvres, comme l'affirma ou le laissa voir sa conversation avec Lydgate, c'est qu'il avait eu à traverser une dure épreuve depuis la vente largère, depuis que Raffles avait reconnu Ladislav et que le banquier avait vainement tenté un acte de restitution qui aurait pu amener la divine Providence à lui épargner les pénibles conséquences de sa faute passée. Sa conviction que Raffles, à moins d'être mort, reviendrait avant longtemps à Middlemarch, s'était vu justifié. La veille de Noël, il avait reparu au bosquet. Bulstrode était chez lui pour le recevoir et l'empêcher de communiquer avec le reste de la famille. Mais il ne put faire que les circonstances de cette visite ne fussent de nature à le compromettre et à alarmer sa femme. Raffles se montra cette fois plus intraitable que dans ses premières apparitions. Son état chronique d'agitation mentale, l'effet croissant de l'intempérance habituelle, effaçait rapidement chez lui toute impression de ce qu'on lui disait. Il insista pour ne pas quitter la maison, et Bulstrode, entre deux mots, se dit que cet arrangement valait tout autant que de le laisser retourner en ville. Il le garda dans sa propre chambre toute la soirée et le vit se mettre au lit, tandis que Raffles s'amusait de l'ennui qu'il causait à ce compagnon de faute si correct et si hautement prospère. Il aimait à voir, disait-il facétieusement, le plaisir que prenait son ami à recevoir un homme qui lui avait rendu service sans en obtenir tout son salaire. Sous ces plaisanteries bruyantes se cachait un calcul astucieux, une froide résolution d'extorquer dans un nouveau marché quelque chose de mieux à Bulstrode, pour se voir soulagé de cette nouvelle application de torture. Mais son astuce avait un peu dépassé le but. La torture avait certainement été plus loin chez Bulstrode que les libertés grossières de Raffles ne pouvaient lui permettre de l'imaginer. Il avait dit à sa femme que s'il prenait soin de cette misérable créature, victime du vice, c'était simplement pour l'empêcher de se nuire à elle-même. Il fit entendre, sans employer la forme directe du mensonge, qu'il existait un lien de famille qui l'attachait à ce soin, et que certains signes d'aliénation mentale chez Raffles commandaient une grande prudence. Il se chargerait lui-même d'emmener ce malheureux le lendemain matin en voiture. Ces allusions fournissaient tout naturellement à Mrs. Bulstrode des renseignements plausibles à l'usage de ses filles et des domestiques. Elles expliquaient pourquoi il ne permettait à personne d'entrer dans la chambre, même pour y porter à boire et à manger. Mais il demeurait assis dans une agonie de terreur, redoutant qu'on entendît Raffles dans ses bruyantes et trop claires évocations du passé, redoutant que Mrs. Bulstrode ne fût peut-être elle-même tentée d'écouter à la porte. C'était une femme d'habitude honnête et droite, et il était peu probable qu'elle recourût à un si vil moyen pour arriver à une découverte pénible. Mais la crainte était plus forte chez Bulstrode que le calcul des probabilités. Raffles avait poussé la torture trop loin et produit un effet qui n'était pas dans ses plans. En se montrant désespérément intraitable, il avait fait sentir à Bulstrode qu'il ne lui restait plus d'autre ressource qu'une attitude d'énergique défi. Après avoir fait mettre Raffles au lit pour la nuit, le banquier commanda sa voiture fermée pour le lendemain matin, 7h30. À 6h, il était déjà habillé depuis longtemps et avait dépensé en prière une partie de sa souffrance. S'il y avait eu quelque fausseté dans sa conduite, s'il avait dit ce qui n'était pas vrai devant Dieu, il invoquait pour détourner de lui le pire des maux, les mobiles qui le faisaient agir. Bulstrode reculait devant le mensonge direct, avec une énergie peu en rapport avec le nombre de ses méfaits plus indirects. Mais beaucoup de ses méfaits étaient comme les subtils mouvements musculaires, dont nous ne tenons pas compte dans la conscience de nos sensations, bien que ce soit eux qui nous fassent toucher au but auquel nous avons fixé nos désirs. Et ce n'est que lorsque nous avons la vive conscience d'une chose que nous arrivons à la vive conception qu'elle est vue par l'omniscience. Bulstrode s'avança avec son bougeoir jusque devant le lit sur lequel Raffles paraissait en proie à un rêve pénible. Il resta silencieux, dans l'espoir que la présence de la lumière servirait à éveiller doucement et graduellement le dormeur, dont il craignait qu'un réveil trop soudain n'amenât quelque éclat. Il avait pendant quelques minutes surveillé les frémissements et les palpitations qui semblaient devoir se terminer par le réveil, lorsque Raffles, avec un gémissement à demi étouffé, se leva en sursaut et regarda tout autour de lui avec terreur, tremblant et respirant bruyamment. Mais ce fut tout, et Bulstrode, déposant le bougeoir, attendit qu'il revînt à lui. Au bout d'un quart d'heure, Bulstrode se rapprocha, et d'un air froid et péremptoire qu'il n'avait pas montré jusque-là, « Je suis venu, lui dit-il, vous appeler de bonne heure, monsieur Raffles, parce que j'ai commandé la voiture pour 7h30 et que je me propose de vous conduire jusqu'à Ilsley, où vous pourrez soit prendre le chemin de fer, soit attendre une diligence. » Raffles allait parler, mais Bulstrode le prévint par ces mots impérieux. « Taisez-vous, monsieur, et écoutez ce que j'ai à vous dire. Je vous donnerai de l'argent aujourd'hui, et je vous fournirai une somme raisonnable de temps en temps, quand vous vous adresserez à moi par lettre. Mais si vous revenez vous présenter ici, si vous retournez à Middlemarch, si vous vous servez de votre langue si injurieuse pour moi, de quelque manière que ce soit, vous aurez à vivre sur tel fruit que votre malignité pourra vous rapporter, sans secours de ma part. Personne ne vous paiera pour flétrir mon nom. Je sais le pire que vous puissiez faire contre moi, et je le braverai, si vous osez encore vous imposer à moi. Levez-vous, monsieur, et faites ce que je vous ordonne, sans bruit, ou j'enverrai chercher un agent de police pour vous faire quitter ma demeure. Et vous pourrez colporter vos histoires dans tous les cabarets de la ville, mais vous n'aurez pas une pièce de sixpence de moi pour y payer vos dépenses. » Bulstrode avait rarement dans sa vie parlé avec une telle énergie nerveuse. Il avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir à ce discours et à ses effets probables, et sans croire qu'il se mettrait ainsi à l'abri de tout retour de Raffles, il s'était arrêté à l'idée que c'était la meilleure attitude. Il réussit, dans cette matinée, à imposer la soumission à cet homme déjà usé et dont l'organisme empoisonné faiblissait devant le maintien froidement résolu de Bulstrode. Raffles se laissa emmener tranquillement avant l'heure du déjeuner de la famille. Les domestiques imaginèrent que c'était quelque parent pauvre, et ne s'étonnèrent pas qu'un homme correct comme leur maître, qui portait haut la tête dans le monde, eut honte d'un tel cousin et désira se débarrasser de lui. La course de 10 000 que fit le banquier avec son compagnon aboré était un triste commencement de jour de Noël. Mais à la fin de la course, Raffles avait recouvré sa gaieté, il s'en allait avec une satisfaction suffisamment expliquée par la centaine de livres que le banquier lui avait donnés. Des motifs divers avaient poussé Bulstrode à cette générosité, sans que lui-même les eût minutieusement approfondis en détail. Pendant qu'il était resté à surveiller Raffles dans son sommeil agité, l'idée lui était certainement venue à l'esprit que cet homme avait subi un grand ébranlement depuis son premier don de 200 livres. Il avait eu soin de lui répéter, d'un ton tranchant, sa résolution de ne plus se laisser exploiter. Et il avait essayé de pénétrer Raffles d'un fait, c'est qu'il en était arrivé lui-même, Bulstrode, à la conviction qu'il n'y avait pas plus de risque à le braver qu'à acheter son silence. Mais lorsque, délivré de cette exécrable présence, Bulstrode revint à sa tranquille demeure, il ne rapportait pas avec lui la confiance de s'être assuré autre chose qu'un répit. C'était comme si, au sortir d'un horrible cauchemar, il ne pouvait en secouer les images avec leur odieux cortège de sensations, comme si, sur toutes les choses agréables qui entouraient sa vie, un reptile venimeux avait laissé ses traces gluantes. Qui peut savoir à quel point compte, au plus profond de la conscience, le jugement qu'on prête aux autres sur soi-même, jusqu'au jour où cet édifice d'opinion est menacé de ruine? Le besoin que prenait sa femme d'éviter toute allusion à ses pressentiments inquiets ne faisait qu'augmenter chez Bulstrode le sentiment qu'il s'accumulait au fond de son cœur. Il avait été habitué à goûter chaque jour la saveur de la suprématie et le tribut d'une complète déférence. Aussi la certitude qu'on l'épiait maintenant ou qu'on le jugeait, avec le soupçon de l'existence d'un secret déshonorant, faisait trembler sa voix quand il parlait pour l'édification des autres. Pour des hommes d'un tempérament inquiet, comme Bulstrode, prévoir est souvent pire que voir, et son imagination augmentait sans cesse en lui l'angoisse d'une honte imminente. Car si la manière dont il avait bravé Raffles ne tenait pas cet homme éloigné, et tout en demandant cette grâce au ciel il l'espérait à peine, alors la honte était certaine. En vain il se répétait que, si Dieu le permettait, ce serait une épreuve envoyée d'en haut, un châtiment, une préparation. Il reculait devant ce tourment ardent qu'il se représentait, et il jugeait qu'il devait être plus profitable à la gloire divine de le faire échapper au déshonneur. Cette crainte avait fini par l'amener à prendre ses dispositions pour quitter Middlemarch, si l'on devait rapporter sur son compte de tristes vérités, il serait alors à une distance moins brûlante du mépris de ses anciens voisins. Et sur une nouvelle scène où sa vie n'aurait pas atteint le même degré de sensibilité, son bourreau, s'il l'y poursuivait, serait moins formidable. Il serait extrêmement pénible à sa femme de quitter la ville, et pour d'autres motifs encore, il eût préféré demeurer là où il avait pris racine. Aussi ne fit-il d'abord ses préparatifs qu'avec réserve, désireux de laisser toutes les portes ouvertes à un prompt retour si quelque intervention de la Providence devait dissiper ses craintes. Il se prépara à abandonner la direction de la banque et tout contrôle actif dans les affaires commerciales du voisinage, sous le prétexte de l'affaiblissement de sa santé, mais sans renoncer pour l'avenir à y rentrer jamais. Ce parti entraînerait quelques surcroît de dépenses et une diminution de revenus, sans parler des pertes que lui avait déjà fait éprouver la mauvaise marche générale des affaires. Sur l'hôpital, qui se présentait comme un chapitre principal de dépenses, il pourrait du moins beaucoup économiser. Telle était l'épreuve qui avait déterminé sa conversation avec Lydgate. Mais, à cette époque, ses dispositions n'avaient pas, en général, dépassé le point où il lui serait encore loisible de les révoquer si elles cessaient de se montrer nécessaires. Au milieu de ses craintes, il différait constamment les démarches décisives. Comme il arrive à un homme en danger de faire naufrage ou d'être lancé hors d'une voiture par des chevaux emportés, il conservait obstinément le sentiment que quelque chose arriverait pour empêcher le pire, et que ce serait peut-être agir inconsidérément que de gâter sa vie par une transplantation tardive, avec la difficulté surtout d'expliquer à sa femme d'une façon satisfaisante ce projet d'exil indéfini du seul endroit où elle aima à vivre. Au nombre des affaires que Bulstrode avait à régler, en cas d'absence, se trouvait l'administration de la ferme de Stone Court. Et sur cette matière, comme sur toutes celles qui concernaient ses propriétés de Middlemarch et du dehors, il avait consulté Caleb Garth, cet agent unique, plus jaloux toujours des intérêts de son patron que des siens propres. À l'égard de Stone Court, Bulstrode voulait conserver prise sur le fond et s'arranger de façon à pouvoir, à sa convenance, retrouver dans cette exploitation son délassement favori. Et Caleb lui avait conseillé de ne pas se fier à un simple intendant, mais de louer à l'année la terre et le matériel en prélevant sur les revenus une part déterminée. « Puis-je me fier à vous pour me trouver un tenancier à ces conditions, monsieur Garth ?» demanda Bulstrode. « Et voulez-vous m'indiquer la somme qui devrait vous revenir annuellement pour diriger toutes ces affaires que nous avons discutées ensemble ?»« J'y penserai, » reprit Caleb de sa façon brusque. « Je verrai comment je pourrai en venir à bout. » S'il n'avait eu à se préoccuper de l'avenir de Fred Vincey, M. Garth n'aurait probablement pas vu d'un bon œil un surcroît à son travail, dont sa femme redoutait toujours l'excès pour lui à mesure qu'il avançait en âge. Mais en quittant Bulstrode après cette conversation, il lui vint, à propos du louage de Stone Court, une idée très séduisante. Pourquoi Bulstrode ne consentirait-il pas à l'y voir placer Fred Vincey, sous condition que lui, Caleb, serait responsable de l'administration du domaine. Ce serait un excellent apprentissage pour Fred. Il pourrait se faire là un modeste revenu et avoir encore du temps de reste pour acquérir plus d'expérience en le secondant dans d'autres affaires. Il parla de son idée à Mrs. Garth avec un ravissement si évident qu'elle se serait reprochée de refroidir sa joie en lui exprimant sa crainte constante qu'il n'en entreprît trop. Ce garçon serait heureux comme quatre si je pouvais lui dire que tout cela est arrangé. Pensez, Suzanne, il avait eu l'esprit toujours fixé sur cette terre pendant des années avant la mort du vieux Featherstone. Et ce serait la plus jolie tournure que puissent prendre les choses s'il avait, en fin de compte, l'espoir de l'administrer comme il faut, avec intelligence, en se mettant aux affaires. Car il est assez probable que Bulstrode le laisserait continuer et peu à peu acquérir le matériel. Il n'a pas encore décidé, à ce qu'il me semble, s'il se fixera, oui ou non, quelque part ailleurs d'une façon définitive. Je n'ai jamais de ma vie été plus satisfait d'une idée. Et alors, les enfants pourraient se marier bientôt, Suzanne. Vous ne toucherez rien de ce plan à Fred avant d'être sûr du consentement de Bulstrode, répliqua Mrs. Garth d'un ton de doux avertissement. Et quant au mariage, Caleb, ce n'est pas à nous autres, vieilles gens, de contribuer à le hâter. Oh, je ne sais pas, dit Caleb en balançant la tête. Le mariage est un frein. Fred aurait moins besoin de mon mort et de ma bride. Toutefois, je ne dirai rien jusqu'à ce que je sache sur quel terrain je marche. Je reparlerai à Bulstrode. Il choisit la première occasion de le faire. Bulstrode ne portait rien moins qu'un vif intérêt à son neveu Fred Vincey. Mais il avait un grand désir de s'assurer les services de Garth en plusieurs affaires embrouillées, où il était sûr de perdre considérablement si elles étaient sous une direction moins consciencieuse. Aussi ne fit-il pas d'objection à la proposition de M. Garth. Il avait même une autre raison encore pour consentir volontiers à un arrangement qui devait profiter à un membre de la famille Vincey. Mrs. Bulstrode, ayant entendu parler des dettes de Lydgate, s'était inquiétée de savoir si son mari ne pourrait pas faire quelque chose pour la pauvre Rosemond, et très tourmentée en apprenant de lui qu'il n'était pas facile de porter remède aux affaires de Lydgate, et que le parti le plus sage était de les laisser suivre leur cours, Mrs. Bulstrode lui avait dit alors pour la première fois « Je trouve que vous êtes toujours un peu dur envers ma famille, Nicolas, et je n'ai certainement pas de raison de renier aucun de mes parents. Il se peut qu'ils soient trop mondains, mais personne n'a jamais rien eu à dire sur leur honorabilité. » « Ma chère Henriette, dit Bulstrode, évitant les yeux de sa femme qui se remplissait de larmes, j'ai fourni à votre frère de gros capitaux. On ne peut attendre de moi que je prenne soin de ses enfants mariés. » Il n'y avait rien à dire à cela, et les observations de Mrs. Bulstrode se réduisirent en pitié pour la pauvre Rosemond, dont l'éducation extravagante portait les fruits qu'elle avait toujours prévus. Mais, se rappelant cette conversation, Bulstrode sentit que, le moment venu d'entretenir sérieusement sa femme de son projet de quitter le pays, il serait heureux de lui parler d'un arrangement qui pourrait être pour le bien de son neveu Fred. Provisoirement, il l'avait averti qu'il songeait à fermer les bosquets pendant quelques mois et à prendre une maison sur la côte méridionale. C'est ainsi que M. Garth obtint l'assurance qu'il désirait, à savoir qu'au cas où Bulstrode quitterait Middlemarch pour un temps indéterminé, Fred Vincey serait autorisé à prendre la tenure de Stone Court aux conditions proposées. La perspective de cette bonne tournure donnée aux choses exaltait tellement Caleb qu'il aurait eu toutes les peines du monde, sans une petite gronderie affectueuse de sa femme, à ne pas tout révéler à Mary, désireux de donner du réconfort à cet enfant. Il se retint cependant et garda strictement caché pour Fred certaines visites qu'il fit à Stone Court, afin de se rendre plus complètement compte de l'état des terres et du matériel, et d'en faire une estimation préliminaire. Il apportait à ses visites plus d'empressement que la rapidité probable des événements ne l'exigeait. Mais un ravissement stimulait son cœur de père, en songeant à cette part de bonheur probable qu'il tenait en réserve, comme un cadeau de fête pour Fred et pour Mary. Mais supposez que tout ce projet se trouve n'être là qu'un château en l'air, dit Mrs. Garth. Eh bien, repartit Caleb, le château ne s'écroulera sur la tête de personne.